Vous écoutez, on lit pour vous.
Porter plainte, un levier pour soi et pour tous. Un texte d'Ariane Gauthier-Tremblay paru à l'automne 2024 dans le magazine Paraquad. Porter plainte au commissaire aux plaintes d'un établissement de santé n'est pas une mince affaire, mais elle peut représenter une étape importante dans les démarches entreprises par un usager pour défendre ses droits, et ce, à court comme à long terme. Mieux encore, cette plainte peut alerter les autorités concernant un problème structurel. L'expérience qu'a vécue Samuel, un membre de MémoQC, va dans ce sens. En juin 2022, Samuel nous avise que son CLSC a annoncé aux bénéficiaires des soins à domicile de son territoire que le nombre de bains dispensés par semaine avait été réduit. Il ne pourra désormais plus compter que sur un bain par semaine, et ce pour une durée indéterminée. Seuls les usagers incontinents conservent leur deuxième bain hebdomadaire. Samuel déplore cette situation non seulement pour lui-même, mais aussi pour l'ensemble des bénéficiaires. Il nous demande de l'aide. Après avoir étudié le dossier, nous portons plainte auprès du commissaire aux plaintes du CLSC de Samuel sur deux principes, celui de la définition de l'incontinence et sur celui de la prise en considération des besoins réels des usagers. Après quelques semaines, le CLSC propose à Samuel un accommodement qui lui permet, à lui seul, de prendre un deuxième bain par semaine. Ce gain n'est pas satisfaisant pour Samuel, car aucun changement n'a été fait au niveau des critères d'attribution des bains pour les autres usagers. Nous interpellons alors le protecteur du citoyen qui nous contacte presque aussitôt. Il a, en effet, constaté des coupures de bains dans d'autres régions. Il a même, par la suite, dénoncé cette situation dans son rapport annuel de 2022-2023 et émis des recommandations afin que l'élaboration des plans de soins corresponde mieux aux besoins des usagers. C'était « Porter plainte, un levier pour soi et pour tous », un texte d'Ariane Gauthier-Tremblay paru à l'automne 2024 dans le magazine Paraquad.
L'entrée royale de Candide Proux en littérature, un texte de Samuel Larochelle, paru le 11 juin 2024 dans Les libraires. Pétillante recherchiste qui fait de la dérision sa planche de salut, Rosemary plonge dans l'océan du célibat après avoir quitté le père de ses enfants. Malgré les vagues qui lui frappent le visage, elle réussit à garder la tête hors de l'eau, à éviter les espèces mâles peu invitantes et à voir apparaître dans sa vie un homme qui a tout, ou presque, du trésor caché au fond des mers. En publiant son premier roman, Majesté, Candide Proux souffle un vent de fraîcheur sur la littérature consacrée aux relations amoureuses. Dans un style aussi léger que profond, la primo-romancière nous rappelle le coup de foudre que des dizaines de milliers de personnes ont ressenti il y a 20 ans lorsque Raphaël Germain a publié « Soutien-gorge rose et veston noir ». Si certains lecteurs réduisent les quêtes amoureuses campées dans la modernité à des histoires de survie aux applications de rencontres, d'innombrables romans ont beaucoup plus à dire. « Moi, je suis une passionnée de psychologie », affirme Candide Proux. « Je m'intéresse aux types d'attachement, aux personnalités, aux drapeaux rouges et aux drapeaux verts en relation. » Ça peut sonner comme un jargon d'application de rencontre, mais ça existe dans les relations amoureuses en général et dans plusieurs types de rapports humains. Portée par le désir irrépressible de devenir une meilleure personne, l'écrivaine est persuadée que les célibataires évoluent sur un terrain de jeu qui, malgré ses indéniables embûches et déceptions, permet d'apprendre. On vit dans une période difficile pour l'humanité, avec beaucoup de haine et de gens déconnectés. Il faudrait qu'on développe nos outils pour mieux se comprendre, s'analyser, communiquer, être dans l'acceptation et pas juste dans la confrontation. Bref, le fait d'être célibataire nous amène à faire ce chemin à petite échelle. Quand on lui dit que sa plume vient d'ajouter une brique de couleurs différentes au mur de la littérature amoureuse, Candide Proux répond qu'elle ignore à quoi il ressemble. « Je n'aime pas les comédies romantiques. Je n'ai jamais regardé Love Actually. Je ne lis pas de chick lit. » Elle s'empresse de préciser qu'elle n'a aucun dédain pour ce genre littéraire. « Puisque je lis plein d'autres choses, je ne connais pas le courant dans lequel je dois m'inscrire. Mais ça me fait plaisir d'y appartenir. Il y a un côté chick lit que je peux assumer avec une grande parole féministe. » Si son objectif n'était pas de réinventer le genre, elle avait toutefois envie d'exprimer des choses peu discutées en société, les préjugés envers les personnes célibataires. On a vraiment sacralisé le couple et le mariage. On attend que la société nous sanctionne, que la vie nous envoie le prince charmant et qu'on soit en couple parce que c'est ce qui est attendu de nous. C'est l'accomplissement suprême. Elle-même romantique devant l'éternel, elle ne comprenait pas pourquoi elle n'atteignait pas ce grand idéal jusqu'à ce qu'elle le remette en question. Doit-on se faire souffrir autant durant les périodes de nos vies où on n'est pas en couple? L'interrogation tourne à plein régime dans la tête de sa Rosemary, célibataire depuis des lunes, qui est désignée, oh la belle ironie, pour animer un événement célébrant les looks de mariage de différentes époques. Elle a été choisie pour être la maîtresse de cérémonie, alors qu'elle se sent laissée pour compte par l'institution du mariage. C'est cruel pour elle d'assister à une représentation du bonheur qui lui échappe. Loin d'être une jeune femme, au début de l'âge adulte, comme dans plusieurs romans populaires du genre, Rosemary est une maman qui a déjà vu neiger. Une femme dont le schéma amoureux de « l'inaccessible étoile » fait écho à une certaine chanson de Jacques Brel. On dirait que la personne qui nous talonne et qui serait prête à s'engager avec nous nous intéresse moins que celle qu'on doit poursuivre avec toute notre ardeur. Pourquoi fait-on ça? J'ai lu un psy qui explique que l'acte d'aimer implique un acte de volonté. On veut sentir qu'on fait un choix. Après avoir rencontré une série d'hommes qui sont de grands parleurs, l'héroïne de Majesté fait face à un faiseur, un homme qui passe à l'action sans hésiter, ce qui la déstabilise complètement. D'une part, parce qu'elle a du mal à déchiffrer certaines de ses communications, d'autre part, parce qu'elle a du mal à composer avec ce qu'elle pensait espérer. Quand le prince charmant débarque dans sa vie, tombe-t-elle en amour avec l'homme ou avec l'idée que c'est enfin son tour de vivre une histoire d'amour extraordinaire? Après son emballement initial, elle découvre beaucoup de choses. À coups de petits chapitres, écrits comme une suite de plongées dans l'esprit et dans la vie de Rosemary, le roman répond au code d'écriture du blog. Normal? Car il est issu d'un projet né sur le web. Pendant 2 ans, j'ai écrit un blog auto-fictionnel, je changeais les noms, j'arrangeais ça pour qu'il y ait un punch, et je faisais des blagues. Après 2 ans à l'alimenter, j'avais plus d'une quarantaine de billets. C'est alors que l'ex-éditrice aux éditions XYZ, Myriam Caron-Belzile, lui a suggéré d'en faire un livre. Je lui ai proposé d'écrire la fameuse journée pour le meilleur et pour le pire, pour en faire la colonne vertébrale autour de laquelle on insérerait tous les billets du blog. À partir de là, j'ai retiré les billets du web, je les ai tous refaits pour les fictionnaliser et pour qu'ils se répondent. N'empêche que sa vie demeure sa matière première et qu'on se demande si elle s'assure de vivre un quotidien rocambolesque pour avoir des choses à écrire ou si elle a tout simplement une vie inspirante. C'est la grande question. Jusqu'où suis-je célibataire parce que je trouve ça le fun de raconter ça? Je n'aurais jamais laissé le père de mes enfants pour ça, mais ce contexte de vie est extrêmement romanesque. C'est sûr que ça a réveillé l'écrivaine en moi. C'était l'entrée royale de Candide Proux en littérature, un texte de Samuel Larochelle, paru le 11 juin 2024 dans les libraires.
Le mur de la voiture. Un texte de Jean-Pierre Leblanc, paru le 27 mars 2024 dans Le Devoir. Quel texte plein d'intelligence et de lucidité que celui de la revue Liberté, reproduit par Le Devoir, 26 mars 2024, signé Julia Posca. Aura-t-on compris avec une telle démonstration que le règne, la tyrannie, de la voiture individuelle, propulsée par une pile ou par un moteur à explosion, conduit irrémédiablement à une impasse? Épuisement rapide des minéraux, pollution du territoire, gouffre financier croissant de l'entretien du réseau routier, tous les arguments plaident contre ce moyen solo de transport. Il n'est pas trop tard pour faire machine arrière. Il n'est pas trop tard pour implanter au ministère des Transports et dans tout le gouvernement une culture du transport en commun. Cet exercice témoignerait d'un jugement profond de la part des responsables, d'une compétence indiscutable. Ce serait en même temps l'occasion pour le Québec de choisir de ne pas être à la remorque de la tendance lourde de la dégradation, de ne pas s'aplatir bêtement devant les lobbies et surtout d'offrir l'exemple d'un nouveau modèle, facilement réalisable et incomparablement moins coûteux, de circulation des personnes et des marchandises. C'était « Le mur de la voiture », un texte de Jean-Pierre Leblanc, paru le 27 mars 2024 dans « Le Devoir ».
Solidarité de classe, une chronique d'Émilie Nicolas parue le 6 juillet 2023 dans Le Devoir. L'accès à la propriété fait partie des symboles les plus importants des sociétés nord-américaines. La maison unifamiliale est toujours bien plus qu'une maison et certainement plus qu'un bas de laine pour la retraite. Elle est devenue dans nos sociétés d'après-guerre une forme de rituel de passage à l'âge adulte. Avec une maison, voilà, on est quelqu'un, on a franchi une étape de vie. Cette description relève bien sûr du mythe social, politique, économique. Dans les faits, environ 40% des Québécois sont locataires. Bien des gens seront locataires toute leur vie, et c'est tout à fait normal. Sauf que dans notre nord-américanité, on continue, surtout, disons-le, de la banlieue, à percevoir le statut de locataire comme un état passager pour les jeunes ou comme un manque. Même lorsqu'on parle des difficultés d'accès à la propriété de ma génération et de celle qui suit, on en parle comme un rêve inaccessible ou même le bris d'un contrat social. Le vocabulaire utilisé en dit long sur la force symbolique derrière la propriété, force qui pousse bien des ménages à s'endetter dangereusement, vu la hausse des prix des dernières années. Les finances personnelles sont serrées, mais au moins, on est proprio. Et lorsqu'on a toujours été propriétaire ou qu'on a travaillé fort pour acheter sa maison, il peut être tentant de faire fi des réalités économiques de notre société pour mieux se convaincre que les 40% de Québécois locataires n'ont qu'à se relever les manches pour acheter eux aussi. C'est ainsi qu'on peut, politiquement, présenter un projet de réforme du droit du logement qui mine le seul levier dont disposent les locataires pour limiter la hausse fulgurante des loyers. La cession de bail. Quelque part, en sourdine, on peut entendre une partie de la classe possédante se dire « Si les locataires ne sont pas contents, ils n'ont qu'à cesser de l'être ». Même si on sait que l'accès à la propriété est de plus en plus difficile, les mythes sociaux nord-américains ne meurent pas si vite. Sous le capitalisme, le jugement social qui pèse sur les locataires va bon train et continue d'être internalisé sous forme de honte ou même de sentiment d'échec par bien des locataires eux-mêmes. Il aura fallu que la valeur de l'immobilier des grandes villes canadiennes connaisse une explosion sans précédent pour que ces mythes tenaces sur la classe moyenne commencent petit à petit à se nuancer, voire à reculer quelque peu. Avec le projet de loi 31, la Coalition Avenir Québec, CAQ, calcule que cette mentalité est encore largement implantée parmi son électorat. Car où sont concentrés, au fond, la plupart des locataires au Québec? À Montréal, où nous formons les deux tiers de la population. Au centre de la ville de Québec. Et dans les villes où l'on compte une population étudiante importante, comme Sherbrooke. Montréal, le centre-ville de Québec et Sherbrooke font partie des rares endroits au Québec où on ne vote pas pour la CAQ. Dans le contexte, ce n'est pas un hasard. Dans notre bon vieux système électoral, pas proportionnel du tout, le premier ministre François Legault et sa ministre de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, pourraient s'aliéner pratiquement tout le 40% de locataires du Québec et se voir réélus avec une majorité aussi forte. On aura dit souvent dans les dernières semaines que le Conseil des ministres semble déconnecté des réalités des gens qui peinent à trouver où se loger alors que la saison du déménagement bat son plein. Et on a raison. Ceci dit, pour que la ministre Duranceau amende son projet de loi, il faudrait qu'elle se retrouve déconnectée de son électorat principal. C'est pourquoi le ton des débats à la rentrée parlementaire sera indirectement un test sur l'emprise que les mythes de la propriété ont sur notre société encore aujourd'hui, particulièrement à l'extérieur des grands centres urbains. Le débat politique actuel ravive en quelque sorte la cassure sociale qui avait été révélée par les mesures de confinement au cœur de la pandémie de COVID-19. Alors qu'à Montréal, on s'évertuait à répéter qu'un couvre-feu se vit difficilement dans un appartement exigu, les ministres de la CAQ publiaient des images de leur vie quotidienne dans leurs immenses manoirs. Mais ceux qui ont permis au gouvernement de rester populaire dans toute cette tourmente, ce ne sont pas les Québécois aussi riches que les ministres, mais bien les gens ordinaires à l'extérieur des grands centres qui ne manquent pas d'espace chez eux et ne s'identifient pas nécessairement aux réalités de la ville. De la même manière, entre les propriétaires de multiples immeubles locatifs qui cherchent à faire valoir leur droit de choisir à qui ils veulent louer, d'un côté, et les locataires qui peinent à trouver un logement abordable pour leur famille, de l'autre, il y a l'entre-deux. Il y a tout le Québec des bungalows, propriétaires, certes, mais certainement pas locataires, et majoritairement résidents de circonscriptions caquistes. C'est d'eux dont le mouvement pour le droit au logement devrait faire basculer la solidarité de classe pour réussir à obtenir un gain politique. Et pour ce faire, il faut parler concrètement de ce qui ne tourne pas rond dans la réforme proposée, certes, mais aussi faire évoluer les imaginaires. C'était « Solidarité de classe », une chronique d'Émilie Nicolas, parue le 6 juillet 2023 dans Le Devoir.
les coopératives d'habitation pourraient-elles atténuer la crise du logement à Vancouver? Un texte de Marc Béliveau, paru le 22 août 2023 dans le journal La Source de la Colombie-Britannique. Pour la majorité des Vancouverois, il est douteux qu'ils ne deviennent un jour propriétaires de leur maison ou leurs appartements. En effet, la crise actuelle et la surenchère des prix dans l'immobilier pourraient se poursuivre encore pendant de nombreuses années. Pour comprendre l'évolution du marché, la crise actuelle du logement et les solutions et alternatives possibles, nous abordons ces enjeux avec M. Jacques Coury, un spécialiste du marché immobilier. Originaire du Liban, ayant fait des études universitaires à Trois-Rivières, au Québec, Jacques Coury s'est installé à Vancouver en 1964, où il a travaillé comme journaliste économique au Vancouver Sun et a poursuivi sa carrière dans divers médias, notamment à CKNW-AM et CBC Vancouver. Promoteur à succès de logements coopératifs dans le passé, Jacques Coury a créé une trentaine de projets de coopératives d'habitation, aidant des centaines de résidents à trouver un logement à Vancouver et rénovant aussi les bâtiments patrimoniaux. Il a également travaillé à la coopérative financière Van City pour soutenir le secteur du logement sans but lucratif et a présidé le British Columbia Real Estate Institute. Propos recueillis. Comment vous êtes-vous engagé dans le secteur de l'habitation coopérative? Alors que je résidais dans le quartier de Kitsilano durant les années 70, j'ai eu vent d'un promoteur immobilier qui souhaitait construire un immeuble en hauteur qui pourrait potentiellement changer la nature du quartier. En tant que critique virulent de ce projet, j'ai créé une coalition de résidents menant à la création de la Inner City Housing Society. L'objectif était de promouvoir de meilleures options de logement plus acceptables dans la communauté. Pour démontrer sa valeur, nous avons proposé un projet de coopérative d'habitation qui a fini par l'emporter sur le projet de tour. Cela a conduit à la création de la place Sam Greer. Le modèle de coopérative d'habitation est-il encore une solution d'avenir? La formule des coops d'habitation ne répond plus aussi adéquatement aux réalités d'aujourd'hui. Avec le nombre croissant d'immigrants, la demande de logement demeure élevée. De plus, le prix des terrains a grimpé en flèche. Vancouver fait également face à un parc d'immeubles à appartements vieillissants, y compris de nombreuses coopératives qui offrent des logements abordables à des milliers de personnes. Trouver des ressources pour rénover ces bâtiments pourrait être difficile. Plusieurs coopératives d'habitation doivent également renouveler le bail de location de leurs terrains avec la ville de Vancouver. À la valeur actuelle des terrains, cela pourrait s'avérer une proposition coûteuse pour les locataires, compte tenu du faible taux de densité de bon nombre de ces bâtiments. Ce sont là quelques problèmes auxquels doit faire face la viabilité du modèle coopératif actuel. Avec l'absence de nouveaux projets de logements à but non lucratif sur le marché, de nombreux locataires de coopératives ne veulent pas quitter leur lieu de résidence. En conséquence, les listes d'attente pour entrer dans les coopératives peuvent s'étendre sur des années si les listes d'attente sont toujours ouvertes. Afin d'offrir des loyers abordables au secteur immobilier sans but lucratif, il faut être en mesure de construire à moindre coût. Les gouvernements doivent adopter une vision à moyen et long terme qui comprend l'accès à des terrains à un prix raisonnable ou subventionné à l'intention des promoteurs de logements à but non lucratif. Avec le recul, Que feriez-vous différemment? Tout d'abord, il nous faut tenir compte de la nature cyclique du marché de l'habitation. En 1981, le marché s'est vu face à des taux d'intérêt atteignant plus de 20 %. Les promoteurs et les spéculateurs privés n'ont pas pu soutenir l'acquisition des terrains qu'ils avaient acquis plus tôt. Et le ralentissement des activités de construction a entraîné une baisse des prix. Pour les promoteurs de coopératives d'habitation, l'achat d'un terrain à prix réduit, avec le soutien d'un programme fédéral, a fait une grande différence. C'est essentiel si nous devons concurrencer le secteur privé. De plus, il nous faut savoir que le secteur canadien du logement, privé ou sans but lucratif, est subventionné de diverses façons. Par conséquent, les gouvernements doivent adopter une vision à moyen et long terme pour éviter la flambée des prix, la volatilité du marché et fournir des terrains à prix abordables au secteur à but non lucratif. Croyez-vous toujours aux initiatives de logements sans but lucratif? Différentes priorités politiques prolongent souvent la flambée des prix et la hausse de la volatilité. Je cite souvent, en exemple, la politique sociale de la ville de Berlin en Allemagne. En revanche, je ne sais pas si cette expérience européenne pourrait s'appliquer au Canada. En comparaison, le logement social à Berlin représente environ 30 % du marché immobilier. Les Berlinois ont adopté la formule de louer leur résidence à des prix raisonnables au lieu de rêver d'en être propriétaire. Dans ce contexte, la ville peut intervenir sur le marché immobilier pour éviter, par exemple, des pénuries de main-d'œuvre dues à des loyers prohibitifs, nuisant ainsi au bien-être économique de la ville. C'était « Les coopératives d'habitation pourraient-elles atténuer la crise du logement à Vancouver? » Un texte de Marc Béliveau, paru le 22 août 2023 dans le journal La Source de la Colombie-Britannique.